nouveau chapitre, les églises orientales. D'abord, si vous voulez, un panorama rapide, et puis ensuite on va entrer dans le détail. Quand nous parlons d'églises orientales, nous parlons de deux types d'églises. D'une part, les églises orthodoxes, c'est-à-dire essentiellement les églises qui sont à l'est de l'Europe, l'ancienne Yougoslavie étant la frontière entre la chrétienté latine, c'est-à-dire catholique et protestante, et la chrétienté byzantine, c'est-à-dire orthodoxe. Les églises orthodoxes sont donc essentiellement les églises qui sont dans les Balkans, à commencer par la Grèce, pays qui ont été islamisés à partir du XVIe siècle et qui se sont libérés du joug musulman au XIXe. Souvent, d'ailleurs, c'est l'Église orthodoxe qui a été le moteur de la révolution qui a secoué le joug des Turcs, donc des musulmans. Et se sont créés donc dans le courant du XIXe siècle des États dans les Balkans, une mosaïque d'États. La Grèce a été le premier d'entre eux à se libérer. Puis ont suivi donc la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie, tous États orthodoxes, et dans lesquels la religion et la nationalité finalement se confondaient. Il y avait une imbrication très forte de l'un comme de l'autre, l'Église orthodoxe incarnant le sentiment national. Plus à l'est, évidemment, on trouve l'immense Russie, qui se veut la dernière Rome, avec au XIXe son empire colonial, pourrait-on dire. C'était un véritable empire colonial au sud, avec les pays qui étaient islamisés et qui ont retrouvé leur indépendance après la chute du mur de Berlin. Et puis l'Ukraine et la Sibérie. La Sibérie qui a été colonisée au siècle dernier. Bon, on aura l'occasion de voir justement tout ce qui concerne la lutte entre l'orthodoxie et le communisme. Et puis, ensuite, il y a une deuxième série d'églises de l'Est, que nous appelons les églises orientales. Ce sont toutes les églises du Moyen-Orient, les églises qui sont implantées dans des territoires sous contrôle de l'islam depuis le 7e, 8e siècle, et qui vivent dans des conditions très très particulières sur lesquelles nous aurons l'occasion de nous arrêter très longuement. Le seul État qui a quelque peu échappé à cette situation d'emprise islamique, finalement, c'était le Liban. Le Liban, jusqu'en 1982, 84 si on veut, à peu près les années 80, quoi, où les chrétiens, qui représentaient jusqu'en 1970 une faible majorité du pays, avaient réussi à constituer un État national, binational, pardon, dans lequel les chrétiens avaient la prédominance, ce qui faisait que justement, ils pouvaient avoir pour tous, chrétiens et non-chrétiens, et musulmans par conséquent, donc, une liberté qui ressemblait à celle des pays d'Europe. Bon, en 1975, vous savez, à la suite de l'expulsion des milices palestiniennes de Jordanie qui ont suivi le septembre noir de 1970, ces dernières, Arafat en tête, sont venues s'établir au Liban, bouleversant donc l'équilibre ethnographique et démographique du pays, faisant à nouveau basculer le poids de la démographie en faveur de l'élément musulman. Et donc en 1975 jusqu'en 1984, a éclaté l'horrible guerre civile qui a ensanglanté pendant toutes ces années le Liban et qui finalement a détruit le Liban binational qui était en quelque sorte ce que l'on appelait la perle du Moyen-Orient. En Russie, c'est évidemment à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, une situation du même ordre qui va se développer dans la mesure où, à la suite de la révolution de 1917, la révolution bolchevique, l'Église orthodoxe va se trouver mise en quelque sorte hors la loi. Et les premiers temps de la révolution bolchévique, jusqu'en 1927, voient une véritable persécution sanglante contre l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, qui, il faut bien le dire, était très imbriquée avec l'Ancien Régime, elle en était un des soutiens essentiels, et la révolution bolchevique était autant dirigée contre l'Ancien Régime tsariste que contre justement son soutien qui était l'Église orthodoxe. Et en même temps que la destruction physique des cadres de l'Ancien Régime, et notamment justement des paysans qui étaient principal soutien aussi de l'Ancien Régime, on appelait les koulaks. Il y a eu donc après la révolution bolchevique ce qu'on appelait la découlakisation, qui était l'élimination physique justement de la classe paysanne, des petits propriétaires, n'est-ce pas ? Et la réduction des survivants dans les fameux kolkhoz, fermes collectives, ça s'accompagnait justement de la destruction de toutes les structures de l'Église orthodoxe. Les églises étaient confisquées, devenaient musées d'État, salles de danse, maisons du peuple et tout ce qu'on voudra. Les popes étaient massacrés dans chaque village au même moment que la découlakisation. Donc ça a été une terrible persécution qui s'est abattue sur l'Église orthodoxe. Puis est arrivée une deuxième époque, un deuxième temps. Après donc plusieurs années, les premières années de la révolution bolchevique qui ont été extrêmement violentes, il y a eu une pause lorsque Lénine a introduit dans les années 20 ce qu'on appelait la NEP, nouvelle économie politique. C'est-à-dire que les excès de la collectivisation avaient été tels en Russie que on s'était bien rendu compte, Lénine s'était bien rendu compte et le gouvernement bolchevique que le pays était en train de crouler. Et que sur la voie qui menait au paradis communiste et collectiviste, la collectivisation des moyens de production exigeait qu'on fasse une pause pour permettre au pays de souffler. Donc il y a eu une nouvelle économie politique, la NEP, n'est-ce pas, qui a permis, qui a desserré un petit peu les liens de la propriété privée, et des petites entreprises privées ont pu se développer. Et on redonnait donc une bouffée d'oxygène économique à l'économie du pays qui était en train de s'asphyxier. Il y a eu donc en même temps une certaine libéralisation, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, là aussi, une certaine pause dans la politique de répression anti-religieuse, dans ce sens que la nouvelle constitution soviétique reconnaissait en principe la liberté de culte et la liberté de conscience. Mais nous étions là dans une situation qui n'est pas sans rappeler la loi de la séparation de l'Église et de l'État en France, c'est-à-dire que la loi soviétique séparait totalement, si vous voulez, réduisait la religion à la sphère du privé et interdisait toute manifestation religieuse publique. Si vous voulez, pour parler clair, c'était l'église dans la sacristie. Aucune manifestation extérieure n'était autorisée, même pas le catéchisme, qui était considéré comme un endoctrinement à des enfants qui n'étaient pas à même d'apprécier la nocivité ou au contraire d'accepter librement l'enseignement qui leur était donné. Par conséquent, la religion... L'idée de Lénine et du gouvernement soviétique, c'était que la religion allait être, une fois ainsi décapitée, les monastères interdits, etc., allait être l'apanage de vieilles personnes, une vieille superstition qui, en l'espace d'une génération, allait s'éteindre d'elle-même, si justement on faisait en sorte que la jeune génération ne soit pas contaminée par la religion. Et c'est ainsi donc que il y a eu une libéralisation au niveau du religieux. Bon. Puis est arrivé Staline au pouvoir après la mort de Lénine, la fin des années 20, Et Lénine lui-même était un ancien, Staline était un ancien séminariste géorgien, qui avait évidemment défroqué assez vite. Et lui était un farouche anti-religieux, plus encore que ne l'avait été son prédécesseur. Si bien que l'arrivée de Staline au pouvoir a marqué une nouvelle vague de persécution. Avec notamment une nouvelle politique qu'a entreprise le nouveau régime, c'était justement la création de goulags. Bon, faut dire que c'est pas lui qui avait inventé ça, Lénine l'avait déjà fait. Et non seulement il y avait l'élimination physique des opposants, donc la dégoulagisation et des popes, de nombreux popes ont été fusillés sommairement, mais d'autres, et notamment des gens qui n'étaient pas obligatoirement membres du clergé, mais qui étaient des gens qui restaient attachés aux vieilles superstitions qu'on voulait éliminer, qui se retrouvaient dans des goulags. Les camps de concentration. Les camps de concentration ont été inventés par Lénine et Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a trouvé cette invention géniale et il l'a copiée. Mais les camps de concentration hitlériens ont en fait été créés par les bolcheviks. Staline a créé, lui alors, a étendu cette noble institution à un niveau inégalé, comme l'a montré Solzhenitsyn, n'est-ce pas, dans son fameux ouvrage qui, dans les années 70, a fait grand bruit et a contribué à révéler l'enfer concentrationnaire soviétique, n'est-ce pas, puisque il a intitulé ça l'archipel du Goulag. Et de fait, un vaste réseau de camps de concentration avait été mis en place par Staline pour y faire mourir à petit feu tous ses opposants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux ou tout simplement tous ceux qui représentaient pour lui une menace réelle ou imaginaire, tous ceux qui lui faisaient de l'ombre à niveau quelconque qu'il soit. Bon, les éléments qui se trouvaient enfermés dans ces camps de concentration étaient en principe là pour être rééduqués. Et donc, il y avait le fameux lavage de cerveau, qui sera ensuite aussi réutilisé par Mao Tse-Tung dans des conditions semblables et qui sera encore poussé à un degré de raffinement beaucoup plus grand que le système soviétique. Mais donc, ceux qui n'étaient pas récupérables, eh bien, finissaient par croupir là jusqu'à ce que mort s'en suive. Et l'enfermement dans les goulags constituait souvent une mort lente, tout simplement. Et il faut dire que Staline n'hésitait pas non plus à emprisonner ses propres partisans, de nombreux, et de temps en temps, il se livrait à des purges qui touchaient jusque l'appareil le plus élevé du parti, ses plus proches collaborateurs, tant et si bien que les proches collaborateurs de Staline vivaient dans une terreur permanente à tout instant, ça, le sinistre, d'abord le GPU, comme on l'appelait d'abord, puis ensuite NKFD, puis enfin comment ça s'appelle aujourd'hui, le KGB, donc pouvait descendre et puis enfermer, n'est-ce pas, les meilleurs dans la fameuse prison de la Loubianka, les caves où on pratiquait la torture, où on pratiquait les exécutions sommaires, etc., etc. Et Khrouchtchev, qui a succédé à Staline après sa mort, dans le fameux rapport qu'il a publié en 1956, qui a été le point de départ de ce qu'on appelait la déstalinisation, racontait comment lui-même, n'est-ce pas, était parfois, Staline s'amusait, il était un des proches collaborateurs de Staline, s'amusait à les terroriser et les faisait, par exemple, marcher à quatre pattes. Allez, comment il l'appelait? Il avait affublé d'un surnom un peu grotesque, ridicule. Allez, marche à quatre pattes, ou fais l'ours, danse comme l'ours. Alors, comme il était assez gros, Khrouchtchev, il était obligé de faire l'ours devant Staline, qui s'esclaffait. Enfin, voilà le genre, quoi, le genre de choses. Bon. Et donc, la situation des chrétiens sous Staline, dans la première partie du règne de Staline, a été absolument dramatique. Et alors là est née donc une église clandestine, une église souterraine, une église de martyrs, n'est-ce pas, qui a résisté et qui touchait aussi des éléments jeunes. Et à sa grande surprise, malgré la vague de terreur qui s'était abattue sur elle, Staline a été obligé de constater que la religion ne disparaissait pas. Bien qu'il y avait donc des déportations massives en Sibérie, par exemple en Sibérie pendant ces années-là, ont eu lieu des réveils extraordinaires dans les goulags. Bon, ensuite, ceux qui étaient libérés, au bout de quelques années, on pouvait être libéré, par exemple, du camp, mais on était assigné à résidence en Sibérie. On ne pouvait plus résider en dehors de la Sibérie. Et se sont créées donc des communautés très importantes d'anciens prisonniers des goulags libérés qui se sont installés à proximité des camps où ils avaient été enfermés avec femmes et enfants. Ça. Et là, donc, sont nés des villages de chrétiens, véritablement, des véritables communautés. C'était le cas notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vais y venir dans un instant, pour des chrétiens allemands qui s'étaient installés là dans souvent des baptistes, au départ c'était des luthériens, qui avaient fui donc l'Allemagne à la suite de différentes difficultés, de persécutions qui les avaient atteints, et qui s'étaient installés en Russie du temps de la Grande Catherine. L'impératrice Catherine les avait autorisés à venir s'établir là. Ça avait été le début du mouvement évangélique. Des baptistes les avaient rejoints. On a vu ça quand on a étudié justement cette période. Et ces gens-là se sont établis dans le sud de la Russie essentiellement, l'Ukraine, etc. Et là, donc, il y avait des communautés de chrétiens qui parlaient allemand. Ils avaient leur langue, etc. Bon, quand a éclaté la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, Staline a craint que ces gens-là soient des cinquièmes colonnes allemandes au sein de la Russie et les a déportés en Sibérie. Tous, ils ont été déportés en Sibérie avec femmes et enfants. Il y en avait aussi beaucoup en Biélorussie. Ceux qui ont réussi à restés sur place au moment de l'arrivée des Allemands ont été libérés par les nazis. Puis ensuite, évidemment, quand le rouleau compresseur russe a balayé les nazis de Russie, ils sont retombés dans une situation pire que celle qu'ils avaient connue auparavant. Et les survivants ont été aussi déportés en Sibérie. Si bien qu'il y a eu en Sibérie des colonies extrêmement importantes qui se sont installées là. Il y a eu aussi des gens qui sont venus des pays baltes. Les pays baltes qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont été conquis par Staline et ont été intégrés à l'Union soviétique, disons. Bon, les pays baltes étaient des pays essentiellement luthériens, mais il y avait aussi des implantations de baptistes, d'évangéliques, n'est-ce pas ? Et quand ces pays, après la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient considérés comme peu sûrs, donc proches des Allemands finalement, parce que luthériens, la langue allemande aussi parfois, ils avaient leur propre langue, mais on y parlait aussi l'allemand. Et la politique de Staline a été de casser en quelque sorte toutes les structures qui auraient pu présenter des possibilités de révolte contre la domination soviétique. Et nombreux chrétiens des pays baltes, lituaniens, etc., se sont retrouvés également en Sibérie, où ils se sont joints à ces communautés-là. Il y a dernièrement un livre remarquable, qui malheureusement n'est qu'en anglais, c'était Frère André qui nous l'avait donné quand on était allé le voir là-bas. Frère André avait eu l'occasion de les visiter dans les années 60, 70, etc., jusqu'au moment où Khrouchtchev, d'ailleurs, c'est Khrouchtchev qui, à cette période-là, a eu une politique beaucoup plus libérale vis-à-vis d'eux. Et à partir des années 60, il a été possible d'avoir des contacts avec eux d'une manière à peu près libre. Et donc, là, il y a eu des choses absolument extraordinaires, des réveils, des miracles, des guérisons, des prophéties, enfin, des choses absolument remarquables qui ont eu lieu dans ces communautés de Sibérie. Ces communautés ont subsisté, et, par exemple, un des fils d'Hans Bayer, est marié avec une fille qui était membre de ces communautés-là. Ces communautés-là, après la chute du mur de Berlin, un certain nombre d'entre elles, en tout cas, sont revenues en Allemagne. C'était le cas pour la famille de cette fille. Et malheureusement, quand je parlais avec Hans Bayer de ce sujet, je dis que le retour en Allemagne n'a pas été bénéfique du tout. Ces gens qui avaient vécu donc à un haut niveau de spiritualité se sont trouvés très vite confrontés au matérialisme de la nation allemande, etc. Et finalement, ils ont perdu beaucoup, beaucoup même sont partis dans le monde, etc. etc. Enfin, c'est assez catastrophique ce qui s'est passé depuis. Mais pendant tout le temps où ils ont été en Russie, donc c'est quelque chose, au contraire, qui a été tout à fait positif. Donc, en 1942, l'Union soviétique, pardon, 1941, juin 41, l'Union soviétique est attaquée par Hitler, brusquement. Malgré le pacte de non-agression qui avait été signé entre Staline et Hitler en 1939, à la veille du début de la Deuxième Guerre mondiale, traîtreusement, l'Allemagne a attaqué son allié soviétique. Cette attaque qui donc a pris le pouvoir soviétique par surprise totalement, jusqu'au dernier moment, Staline a fait une confiance aveugle aux promesses d'Hitler. Il aurait dû s'en méfier. Et tellement vrai que la veille encore de l'attaque, des trains de charbon et de matériaux divers, de minerais venant de l'Union soviétique sont passés en Allemagne selon les accords qui avaient été conclus en 1939. La Wehrmacht a balayé les maigres forces soviétiques qui ont été totalement prises par surprise. Et vous savez que à l'automne de la même année 41, la Wehrmacht arrivait sous les murs de Moscou. Staline était en dépression nerveuse, n'est-ce pas ? Il voyait son pouvoir s'effondrer. Partout, dans un certain nombre d'endroits, en tout cas, la Wehrmacht était accueillie en libérateur par les soviétiques opprimés, n'est-ce pas ? Et si Hitler avait été un peu plus malin, s'il n'avait pas commencé la répression, n'est-ce pas, la main de fer, n'est-ce pas, qui a fait que finalement, au bout de quelques mois d'occupation, la majorité de la population soviétique s'est retournée contre lui et par conséquent est rebasculée du côté de Staline, n'est-ce pas ? Eh bien, il aurait pu avoir avec lui une puissante force qui aurait pu mettre à mal le pouvoir soviétique. Et donc, entre-temps, ce dernier avait pu se ressaisir quelque peu, et notamment organiser la défense de Moscou. Et le mot d'ordre donné à l'armée rouge était de résister devant Moscou à coûte que coûte. Il faut dire que l'armée rouge a été aidée par le général Hiver. Cette année-là est venu un hiver extrêmement précoce, extrêmement froid, qui lui aussi alors a pris la Wehrmacht par surprise, qui n'était pas du tout équipé justement pour une campagne d'hiver, et de nombreux soldats allemands sont morts, gelés, parfois sur place, n'est-ce pas, des choses comme ça, enfin, c'était abominable. Staline a jeté toutes ses forces dans la bataille, et pour cela, il avait besoin des chrétiens. Et c'est alors qu'il a ressorti, si vous voulez, les vieux thèmes susceptibles de ressouder la nation russe autour de lui. Et notamment le thème de la défense de la Rodina, de la Sainte Russie, la patrie. N'est-ce pas ? Et alors, à nouveau, il a réouvert les églises, autorisé, demandé que l'on prie pour la victoire, etc. etc. Donné à nouveau au clergé orthodoxe la possibilité de d'intervenir, n'est-ce pas ? Et de reprendre ses activités très surveillées, bien entendu. Mais enfin, quand même, il y a eu un desserrement, si vous voulez, du carcan. Et finalement, les chrétiens russes, les chrétiens essentiellement orthodoxes, mais il y avait aussi d'autres chrétiens que les chrétiens orthodoxes, notamment les évangéliques, eh bien, se sont dressés contre le nazisme et finalement pour le pouvoir soviétique. Et c'est ainsi que le patriarcat qui avait été aboli a été rétabli et reconnu par l'État, mais bien entendu étroitement surveillé. L'Église, dont les dignitaires étaient nommés par le pouvoir, qui était responsable devant lui, est devenue donc un instrument de propagande pour mobiliser les esprits dans la grande guerre patriotique pour récupérer, donc pour libérer la patrie de l'envahisseur. Séculaire, c'est pas le teuton, bon, c'était la vieille guerre des Slaves et des Germains qui, sous des idéologies modernes, finalement, reprenaient. Bon. Et après la guerre, donc, Staline n'avait plus besoin de la même manière de l'Église, mais il avait quand même compris que l'Église pouvait être utilisée à bon escient. Et après la guerre, donc, bien que l'étau se soit à nouveau resserré sur les chrétiens, on n'est pas retourné à la situation hantée qu'il y avait justement avant la Deuxième Guerre mondiale. Ne parlons pas de liberté, ce n'était pas vraiment une liberté. Mais enfin, il y avait un certain nombre d'églises qui étaient reconnues. Alors reconnues, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que le clergé était totalement à la botte de l'État, devait faire des rapports précis, n'est-ce pas, sur toutes les ouailles, sur tous les gens qui fréquentaient les églises, etc., qui ils étaient. Ce même clergé avait l'interdiction absolue, évidemment, d'enseigner les mineurs, de faire la moindre activité de prosélytisme, d'évangélisation, etc. Et puis, il y avait constamment des tracasseries, en principe, la loi, la constitution de 1936, était édictée par Staline, justement, prévoyait cette liberté de culte, mais on trouvait toujours des prétextes, n'est-ce pas ? C'était un petit peu ce que nous sommes en train de connaître, finalement. Une église qui, par exemple, était prévue pour contenir, 150 personnes, bon, on avait constaté qu'au cours d'un culte, il y avait 152 personnes. Bon, ben, le prêtre se retrouvait au goulag et l'église était fermée. Ce n'était pas du tout une atteinte à la liberté religieuse, c'était une atteinte à la réglementation sur l'urbanisme, quoi, pour la sécurité des occupants. Quelqu'un avait eu le malheur de. Un prêtre avait eu le malheur de donner, une Bible ou un livre de messe à un enfant de moins de 18 ans. Ça s'était su, il avait été dénoncé, paf, il se retrouvait au goulag, l'église était fermée. Des choses comme ça, quoi. C'était. Jamais, en principe, aucun chrétien n'a été enfermé dans les goulags pour avoir pratiqué la religion. La religion était entièrement libre. Mais on était en prison pour avoir violé une loi annexe, soit une loi sur l'urbanisme, soit une loi sur la propagande envers les mineurs, soit des choses comme ça. On trouvait toujours des biais, n'est-ce pas ? Mais le résultat était finalement qu'il y avait une formidable persécution contre les chrétiens. Et donc, en 1953, Staline est mort. S'en est suivie une courte période d'instabilité qui a permis à un apparatchik de s'emparer du pouvoir, le truculent Nikita Khrouchtchev, qui, lui, évidemment, a poursuivi aussi la même politique jusqu'en 1956, où a commencé donc la fameuse déstalinisation. Khrouchtchev, au moment du congrès annuel du Parti communiste, a lancé une charge violente contre Staline, l'accusant des pires méfaits, l'accusant d'avoir en quelque sorte trahi le marxisme-léninisme dont il était censé être le porte-parole, et instituant un certain nombre de réformes. Ces réformes ont aussi touché un peu le domaine religieux, qui lui aussi a connu un petit peu plus de liberté après la déstalinisation. Mais tout ça, évidemment, c'est tout en nuances, n'est-ce pas ? Il est évident qu'il n'était pas du tout question d'envisager une liberté religieuse du type de celle qu'on connaît aujourd'hui, par exemple en Russie. Mais Khrouchtchev, je veux dire, s'est trouvé aussi confronté avec un autre phénomène, c'est l'extraordinaire progression de ce qui n'était pas l'Église orthodoxe. Donc les mouvements évangéliques, si vous voulez, notamment de type pentecôtiste. Et ça échappait d'autant plus au pouvoir que souvent cette progression de ces gens-là se faisait d'une manière assez spontanée. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de cadre aussi repérable que pour l'Église orthodoxe. Donc pour le pouvoir, c'était beaucoup plus difficile à contrôler. Et si les orthodoxes, sous l'ère Khrouchtchev, ont connu disons, une certaine tranquillité, disons pas la liberté, mais enfin une certaine tranquillité, dans la mesure où il se tenait strictement à ces règles qui restreignaient alors à la portion la plus congrue, n'est-ce pas, donc l'église dans la sacristie. Donc il s'en tenait à ça, bon, t'es pas trop inquiété. Par contre, la répression s'est exercée contre les cultes dissidents. Et finalement, Khrouchtchev est arrivé à un arrangement. Il a accepté que ces cultes-là soient reconnus, ce qui d'ailleurs n'était pas apprécié du tout de la hiérarchie orthodoxe, et soient groupés sous le nom général de baptistes. Tous les différents mouvements évangéliques devaient rejoindre les églises baptistes, qui alors ont été structurées, comme l'était l'église orthodoxe, avec des pasteurs responsables devant l'État, nommés par l'État, etc., etc. Des églises officielles. Et là, donc, a lieu un espèce de schisme à l'intérieur de l'église russe, soviétique, disons, à cette époque-là. Un certain nombre de chrétiens ont accepté cet arrangement, et puis d'autres l'ont refusé. Alors, on a vu naître une église à deux vitesses. Une église officielle qui était totalement inféodée au régime et une église clandestine qui alors, elle, était véritablement hors la loi et qui était persécutée non pas tant parce qu'elle pratiquait le christianisme que parce qu'elle n'était pas officielle, parce qu'elle n'était pas reconnue, parce qu'elle avait accepté, elle n'avait pas accepté les règles que l'État soviétique voulait imposer aux églises. La suite a montré qu'il avait raison, que c'était une belle hypocrisie que celle du COE, que de prétendre qu'il ne fallait surtout pas dénoncer les excès du pouvoir soviétique. Alors on descend, c'était l'époque où la tête de Turc de tous les mouvements gauchistes était Pinochet au Chili. Alors là, évidemment, le COE, à chacune de ses sessions, ne cessait de dénoncer, de voter des motions anti-Pinochet, anti-Angola, à cette époque-là, qui était encore sous domination du Portugal. Enfin, tous ces pays-là qui étaient... Bon, l'Afrique du Sud, évidemment, était aussi condamnée, sans parler d'Israël. Mais jamais un mot contre l'Union soviétique. Et finalement, Wombat a démontré que c'était l'inverse. Et que lui-même, quand il était en prison, n'est-ce pas, qu'on avait constaté à de nombreuses reprises que lorsque quelqu'un parlait en sa faveur, ou parlait en faveur des ce qu'on appelait les dissidents dans les pays de l'Est, eh bien, leur sort était immédiatement adouci. Et que justement, au contraire, leur bourreau disait, voyez-vous, personne ne s'occupe de vous, même l'Occident vous a oublié, ne vient pas à votre secours, etc. Il dit, ça c'était le pire pour nous, quand il était en prison, de savoir que personne ne s'intéressait à nous. Et c'est intéressant, je fais une digression sur ce qu'on dira la prochaine fois, c'est pas, de constater que le COE n'a rien appris de cette période-là, et qu'il est en train de faire maintenant avec les chrétiens du Moyen-Orient exactement ce qu'il a fait avec les chrétiens des pays de l'Est du temps du communisme. Les chrétiens qui sont persécutés maintenant par les islamistes de tout poil dans les pays musulmans, eh bien, n'ont pas droit à un seul mot de pitié, un seul mot de soutien de la part du CRE, pour les mêmes raisons, on invoque les mêmes raisons. On dit, mais si on parle en leur faveur, leurs bourreaux, on va les agacer, et ils vont se venger contre eux, il vaut mieux rien dire pour dans leur propre intérêt, ce qui est toujours faux, absolument faux, quelle que soit justement la nature du bourreau qui les opprime. Au contraire, comme dit Jésus, il ferait bien de reprendre le texte de l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Il faut proclamer la vérité, il faut dire la situation de ces chrétiens-là. Bon, donc pendant toutes ces années, ce sont des choses qui ont été faites, et finalement, petit à petit, les choses ont évolué. Après, donc, Khrouchtchev, qui a été destitué de ses fonctions à la fin des années 60, est arrivé l'ère Brejnev, qui a été la plus longue période où un dirigeant soviétique a été au pouvoir. C'est pas... Bon, l'ère Brejnev a été marquée par une ère d'immobilisme total, si bien que cette situation a continué. Brejnev, vous savez, a étouffé toutes sortes de mouvements qui ont voulu justement promouvoir une certaine émancipation. Et notamment, déjà Khrouchtchev l'avait fait, vous savez, en 1956, en réprimant la révolte des Hongrois. Hongrie, qui n'était pas vraiment une révolte à caractère religieux, mais il y avait aussi, bien sûr, la liberté religieuse en arrière-plan. Avant la révolte hongroise, avait eu lieu en Pologne une mini-révolution aussi, qui avait été déjà commanditée par l'Église catholique, qui était extrêmement puissante en Pologne, et avec laquelle le pouvoir communiste avait dû composer. Et un dirigeant communiste avait remplacé les anciens qui étaient les plus durs, n'est-ce pas, s'appelait Gomulka, avait dû composer avec l'Église catholique. Et finalement, pendant le communisme, malgré le fait que pendant la première période stalinienne, le cardinal primat de Pologne, cardinal Wyszyński, avait été enfermé dans des camps de concentration pratiquement, et puis assigné à résidence, il avait résisté malgré tout, n'est-ce pas ? Finalement, sous Gomulka, Wyszyński a été libéré, et l'Église polonaise a retrouvé un certain degré d'autonomie et de liberté. Ce qui fait que la Pologne, juste pendant toute l'ère Brejniev, a été le pays de l'Est où la liberté religieuse a été la plus grande, y compris pour les non-catholiques d'ailleurs, qui ont profité de la liberté dont jouissait l'Église catholique. En 1968 a eu lieu le printemps de Prague. Les Tchèques ont essayé aussi de secouer le joug soviétique. Et donc, après quelques mois où un communiste libéral, qu'on appelait à cette époque-là le socialisme à visage humain, si tant est que le socialisme puisse jamais avoir un visage humain, Alexandre Dubček était arrivé au pouvoir. Et cette expérience, quand elle a commencé à aller trop loin aux yeux du pouvoir soviétique, et notamment quand elle a menacé de faire tache d'huile vers les pays voisins, a été réprimée par les chars soviétiques en août 1968. Et on est revenu à un pouvoir dur avec le président de l'époque qui a remplacé Dubček, qui a été envoyé en camp de concentration, n'est-ce pas, et qui s'appelait Oussak. Oussak l'a remplacé. Donc, immobilisme pendant toute l'ère Brejnev. Avec aussi le fait que l'Église, pendant ce temps-là, n'a cessé de croître et d'embellir malgré les persécutions dont elle était l'objet. Et on a noté ça et là, tant dans l'intérieur de l'Église orthodoxe d'ailleurs, que des églises, disons, ce qu'on appelait baptistes d'une manière générale, mais comme je disais tout à l'heure, le baptiste a regroupé tout le monde sous le même chapeau. Ce qui voulait pas dire, ce qui voulait éventuellement dire aussi que on s'arrangeait. Et par exemple, dans une même église, les vrais baptistes avaient leur culte, par exemple, à 10h, à 11h, c'était les pentecôtistes, et puis bon, etc. Quoi. Il y avait... Enfin, pour le pouvoir, c'était les baptistes. Et donc, parmi les baptistes, il y a eu une très très forte progression dans ces années-là, même si la Bible était interdite. Alors, il y avait... Bon, les gens copiaient la Bible à la main, pour avoir la Bible. On a aussi installé des imprimeries clandestines qui, évidemment, si elles étaient prises, alors là, évidemment, ça allait mal pour ceux qui imprimaient ainsi la Bible. Bon, il y avait aussi, évidemment, le trafic de Bible avec des gens comme Frère André, le contrebandier de Dieu, et puis d'autres, évidemment, qui aussi profitaient de voyages touristiques ou soi-disant touristiques pour amener des Bibles en fraude, clandestinement, donc en Union soviétique. Mais ce qui a caractérisé cette période, c'était surtout l'accroissement des églises dites clandestines. Et là, un phénomène tout à fait particulier est né dans cette période-là, c'est l'interconnexion entre l'église officielle et l'église clandestine. Au début, donc, les églises clandestines voyaient d'un mauvais œil les églises officielles, et finalement, elles ont compris qu'elles pouvaient utiliser les églises officielles comme étant une couverture pour cacher des activités clandestines. Et l'Église officielle a accepté de jouer ce double jeu. Si bien que vous aviez cette interférence, cette interconnexion des deux réalités, vous ne saviez plus très bien à cette période-là à quel moment vous passiez de l'Église officielle à l'Église clandestine. Et finalement, ça a été pour le pouvoir aussi un énorme problème, parce que dans un premier temps, il a encouragé ce mouvement-là parce qu'il pensait ainsi pouvoir pénétrer l'Église clandestine, la noyauter, et par conséquent aussi au moins savoir ce qui s'y passait, ce qui était un minimum pour un pouvoir totalitaire. Et puis finalement, ça lui a échappé. Et au sein de l'Église officielle elle-même, il y a eu toutes sortes d'activités clandestines qui se sont développées, notamment au niveau des jeunes. des camps de jeunes clandestins, des réunions de jeunes clandestins, des bon, etc. Et le pouvoir était complètement débordé devant justement cet afflux, n'est-ce pas, de jeunes qui étaient attirés par les choses de Dieu, par les choses religieuses dans cette période-là. Et alors est venue donc la fin de l'époque de Brejnev, l'époque d'Helsinki, n'est-ce pas, les fameux accords d'Helsinki sur les droits de l'homme que le pouvoir soviétique a signé. Et ces accords comprenaient aussi, bien sûr, la liberté religieuse, telle qu'on la comprend à l'Occident. Le pouvoir soviétique a signé cela, s'imaginant que ce serait un bon exercice de propagande à l'usage du monde extérieur, étant entendu qu'à l'intérieur, il allait continuer, bien sûr, sa politique de répression. Malheureusement, il y a eu... ces accords d'Helsinki ont été aussi une bombe qui a éclaté entre les mains du pouvoir, pour deux raisons. D'abord, parce que les radios occidentales, notamment la Voix d'Amérique, qui est diffusée en russe, et... les dissidents russes, à commencer par Andrei Sakharov, ça a été le début justement de ce mouvement de contestation qui a touché les élites de la société soviétique, aussi bien religieuse que laïque, n'est-ce pas, le pouvoir soviétique n'a pas pu cacher ce qu'étaient finalement les droits de l'homme. Puis il y avait aussi le fait que les gens voyageaient. Ces accords d'Helsinki aussi prévoyaient des libertés de déplacement, libertés de voyage. Bon, les artistes, les scientifiques soviétiques voyageaient à l'Occident pour des raisons professionnelles, pour des contacts avec leurs collègues. Et à l'inverse, leurs collègues occidentaux voyageaient en Union soviétique et leur racontaient ce qui se passait. Et quand ils rentraient, ils se rendaient bien compte qu'il y avait un décalage entre ce qu'était la propagande officielle, à laquelle plus personne ne croyait, et puis finalement ce qui était à la fois diffusé par les ondes occidentales, et puis aussi ce que donc ceux qui voyageaient pouvaient dire. Si bien qu'au bout d'un temps, la société soviétique tout entière a su que le roi était nu. Voilà, pour reprendre l'image du comte d'Andersen. Et alors le mouvement de contestation a grandi, mouvement de contestation clandestin, des journaux satiriques paraissaient dans la clandestinité, mais enfin circulaient pratiquement dans les dernières années de l'ère Brejnev, pratiquement au grand jour. C'est Crocodile, ça s'appelait ça, il y avait d'autres, des choses comme ça. Ça. Et alors un puissant mouvement de contestation est né. Bon, quand Brejnev est mort, deux fossiles sont venus au pouvoir, l'ancien président du KGB Andropov, qui avait déjà un pied dans la tombe, donc il n'a pas fait de vieux os au pouvoir, est arrivé ensuite un certain, comment il s'appelait l'autre, Tchernenko, qui lui aussi était un vieillard à moitié gâteux, donc bon, lui aussi il a vécu quelques années, puis finalement le Politburo, c'est-à-dire l'organe suprême du pouvoir soviétique, a élu un homme jeune pour un homme politique, il avait 50 et quelques années, Gorbatchev, en espérant que lui allait reprendre les choses en main. Il était jeune, donc il avait une carrière longue devant lui, et c'était quelqu'un qui avait été aussi à la tête du KGB, enfin, il avait eu des pouvoirs importants, donc et par conséquent, tout le monde pensait, y compris en Occident, qu'il serait un dur. Il allait reprendre en main la société soviétique, faire taire les dissidences et remettre le pays au pas. Il semblerait que Gorbatchev a essayé de faire ça quand il est arrivé au pouvoir, jusqu'au moment où il s'est rendu compte de l'étendue des dégâts. C'était aussi l'époque où les États-Unis, sous la direction de Reagan, faisaient à l'Union soviétique une guerre économique à mort. Et c'est non seulement la société qui était vermoulue, mais c'était également l'économie du pays. Le pays était par terre. Et finalement, pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, Gorbatchev donc a repris ce qu'avait été la politique de Lénine au moment de la NEP, quand il avait dit « bon, il faut souffler, il faut une pause si on ne veut pas que le pays s'effondre ». Et donc, il a inauguré une politique qu'on appelait la perestroïka. Ça veut dire quoi, au fait, Marbel, perestroïka? Glasnost, c'est la transparence, c'est ça? Ouais. Donc, la perestroïka, c'était une certaine liberté sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des libertés. Et puis la glasnost, c'était la transparence, donc une liberté d'expression, la liberté d'expression. Et ça, les soviétiques en ont usé et abusé immédiatement, n'est-ce pas? Des journaux sont sortis, etc., etc. Et puis, finalement, en espérant qu'il allait donner un petit peu une soupape de sûreté, Gorbatchev s'est rendu compte que c'était l'inverse. C'était une véritable lame de fond qui balayait le pouvoir soviétique déjà ébranlé, n'est-ce pas? Et alors, ça a été la révolution de 89, au cours de laquelle donc Eltsine est arrivé au pouvoir et le communisme a disparu. A commencé donc une ère nouvelle, qui a été une période où la religion orthodoxe, surtout, mais toutes les autres religions, ont été réhabilitées. Des monastères se sont ouverts, se sont réouverts, les églises se sont remplies, beaucoup de ces églises ont été rendues au culte. J'ai visité plusieurs églises qui étaient autrefois des musées, qui étaient sur la place Rouge, là, je ne sais pas, dans le fond, qui était un musée de la marine jusqu'à peu de temps auparavant, qui était pleine le jour, le dimanche où on y était, c'est pas, de jeunes gens, etc. L'église orthodoxe est redevenue une entité officielle au sein de l'État russe. C'était plus question d'État soviétique, mais d'État russe, n'est-ce pas? Les dignitaires russes, Eltsine en tête, sont réclamés. Il allait jusqu'à dire que la religion orthodoxe était un des éléments constitutifs de la culture russe et que Poutine a redit ça encore dernièrement, n'est-ce pas, que la Russie ne pouvait renaître que dans la mesure où la religion orthodoxe renaissait, en était le ciment, quelque chose comme ça, c'est plus les mots exacts. Enfin, c'était l'idée générale, n'est-ce pas. Et en même temps, les frontières se sont ouvertes, avec deux conséquences. Non seulement le fait que l'Église orthodoxe et les autres églises ont pu s'exprimer et vivre à peu près librement, enfin librement, oui, disons, jusqu'à il y a peu, trop librement, justement. Et ça a été un petit peu l'erreur qu'ont fait les chrétiens d'Occident, notamment américains, qui se sont précipités en Russie pour y établir leurs œuvres, pour y faire l'évangélisation. Je me souviens personnellement de cette équipe de pentecôtistes de Miami qui était venue dresser un sapin de 30 mètres. C'était l'époque de Noël, c'était le 6 janvier, c'est Noël orthodoxe. Ils avaient dressé un sapin de 30 mètres devant le Kremlin, puis distribué des tracts pour montrer que la religion orthodoxe n'était pas la vraie religion, mais c'était bon, etc. Alors la police est arrivée, a fait des sortes de sapins en vitesse. Alors ils ne comprenaient pas, les pauvres, ils étaient complètement désemparés. Là, on avait parlé avec eux, ils ne comprenaient pas pourquoi on leur avait enlevé leur beau sapin, etc. Bon, enfin, voilà le style, quoi. Alors donc, il y a eu là toutes sortes de mouvements, certains absolument bizarres, c'est pas qu'ils se sont précipités sur la Russie. Il y a eu aussi le problème de l'uniatisme. Alors ça, c'était un autre problème. Le problème de l'uniatisme, c'est le problème d'église, notamment en Ukraine. C'est plus l'Ukraine qui a été touchée par le phénomène uniate que la Russie. Il s'agit d'églises orthodoxes qui, dans le courant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle surtout, ont reconnu l'autorité de Rome, à condition que Rome leur laisse leur rite, leur liturgie, leur hiérarchie, etc. Donc ce sont des églises qui sont unies à Rome, tout en ayant le rite orthodoxe. Donc si vous allez dans une de ces églises, vous avez l'impression de vous trouver dans une église orthodoxe, en fait c'est une église catholique. Vous avez le même phénomène avec les églises du Moyen-Orient. Un certain nombre d'églises du Moyen-Orient sont aussi des églises uniates. Ça veut dire qu'elles ont leur propre rite, mais elles sont rattachées à Rome, elles reconnaissent l'autorité du pape, moyennant la possibilité d'avoir leur autonomie interne. Donc vous avez l'impression de vous trouver dans une église. Alors cet uniatisme a été une catastrophe pour ces églises locales parce que ça a été un véritable schisme. un certain nombre de ces églises ont accepté le rattachement à Rome et d'autres ne l'ont pas accepté. Donc, ça a été des déchirures au sein de même famille parfois. Enfin, et ça a laissé des plaies béantes, quoi. L'uniatisme est un problème. Et lorsque Staline, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, a donc essayé d'enrôler l'Église dans sa croisade anti-hitlérienne, il a donc exigé que les églises uniates, notamment d'Ukraine, rejoignent l'Église orthodoxe. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que ces églises soient inféodées à un pouvoir étranger, mais dépendent du patriarcat de Moscou, c'est-à-dire finalement du Kremlin. Parce qu'à Moscou, à cette époque-là, c'était le Kremlin, directement. C'était une antichambre du Kremlin. Donc, de gré ou de force, les églises uniates ont dû rejoindre l'Église orthodoxe. Au moment de la perestroïka, eh bien, justement, s'est posé ce problème. Un certain nombre de ces églises, qui avaient été uniates avant Staline, ont voulu revenir sous le giron de Rome, ce qu'évidemment le pape Jean-Paul II a encouragé. Et ça a été ce retour à l'uniatisme de ces églises-là, surtout quand le pape est allé en Russie, en Ukraine, faire ses voyages là-bas, eh bien, ça a été terrible, quoi. Pour les orthodoxes, c'était une véritable trahison. Ça a relancé la guerre entre l'orthodoxie et le catholicisme. Et si vous voulez voir un orthodoxe pur et dur grimper au mur, lâcher devant lui le mot uniate, c'est exactement le même effet que d'agiter un chiffon rouge sous le nez d'un taureau furieux. Pareil, ça a le même effet. L'uniatisme, ça, c'est le poison entre les orthodoxes et les catholiques. Alors donc, bon, Eltsine était l'homme que l'on sait, et Poutine lui a succédé, et déjà, c'était les dernières années d'Eltsine, le pouvoir russe avait mis des réglementations. Il avait signé un décret comme quoi les églises reconnues, il y aurait des églises reconnues finalement en Russie. Donc on retombait un petit peu sous le même régime, toute proportion gardée, que le régime soviétique. C'était inspiré quand même de la législation de l'époque soviétique. Et que pour avoir la possibilité d'exercer librement ses fonctions, une église devait être reconnue par l'État russe. Et pour cela, être une église qui avait été créée avant, en quelque sorte, l'arrivée des étrangers, qui n'était pas une implantation étrangère. Hein, c'est à peu près ça. Bon, c'était pour éliminer justement tout ce fatras d'églises bizarres qui venaient notamment des États-Unis et d'Occident. Bien. Alors évidemment, ça a provoqué un beau tollé en Occident. On a crié à la trahison, au retour à la dictature, etc. Bon, il faut dire que la main de l'Église orthodoxe était derrière cette affaire-là très forte. L'Église orthodoxe qui, un peu partout, justement, retrouvait aussi son punch. Il y avait, depuis la perestroïka et depuis la chute du mur de Berlin, un véritable renouveau de l'orthodoxie partout où il était implanté. C'était le cas notamment en Grèce, notamment à Latos, où il y avait eu une perte très forte de substance pendant la période soviétique, parce que beaucoup de moines de Latos étaient des moines russes, finalement, hein. Ou serbes, ou enfin, disons, de ces pays-là, roumains, tout ça. Et finalement, lorsqu'il y a eu ce renouveau de l'orthodoxie en Russie, il y a eu aussi renouveau en Grèce. Et l'orthodoxie en Grèce était en plein renouveau, avec aussi une volonté hégémonique très forte. L'Église orthodoxe a cette vision, n'est-ce pas, d'une Église nationale. Religion et nationalité se confondent. Et Poutine vient de redire ça, il n'arrête pas de le redire. Bon, en Grèce, c'est la même chose. La Grèce, qui faisait partie de la communauté européenne, a fait scandale en son temps parce qu'elle avait exigé que la religion soit inscrite sur les cartes d'identité des citoyens grecs, ce qui était une atteinte aux droits de l'homme. Et ça a été en vigueur pendant un certain nombre d'années. La Grèce vient de renoncer à cette mesure sous la pression justement de la communauté européenne. Il y a les mêmes problèmes qui se posent dans les autres pays orthodoxes, Roumanie, Bulgarie, etc. Arménie aussi, l'Arménie qui a retrouvé sa liberté après la chute du mur de Berlin, où il y a aussi cette même idée, bien que la religion arménienne soit une religion différente de la religion orthodoxe, la religion se confond avec la nationalité aussi. C'est la même démarche, si vous voulez, de penser. Alors donc, voilà, en gros, si vous voulez, comment on peut dire que se présente aujourd'hui la situation de ces églises de l'Est. C'est, oui, bon voilà, en gros, si vous voulez, ces églises de, qui ont retrouvé leur liberté, même s'il y a quelques petites entraves, enfin bon, par rapport à ce que c'était, c'est plus comparable. Voilà, qui veut dire quelque chose ?